Voilà, j'aimerais, pendant tout cas, merci pour le groupe de louanges. Ce que je ressentais dans l'esprit, vous savez, dans Romains chapitre 8, il nous est parlé de trois soupirs. J'avais le mot soupir. Nous soupirons. Il nous est dit que la création soupire après Dieu, Romains 8. Il nous est parlé aussi du soupir du croyant qui soupire après Dieu. Et au travers de ce moment de louange, eh bien, on soupire en disant: Seigneur, tu es ma gloire, nous soupirons après toi. Et il y a aussi un troisième soupir, c'est le soupir du Saint-Esprit. Amen. Parce que souvent, nous ne savons pas quoi demander, mais le Seigneur, eh bien, l'Esprit de Dieu soupire, de manière intérieure, le soupir du croyant, le soupir de la création et le soupir du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous nous attendons à lui. Moi, je m'attends à lui, hein. Amen. Le Seigneur m'a dit: moins de contrôle, Alain, plus de confiance. Attends-toi à l'inattendu de Dieu. Et nous sommes dans des temps où, Dieu veut, eh bien, nous surprendre. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est dans Ésaïe, chapitre 60. Et j'aimerais que nous puissions être attentifs à cette parole. C'est une parole prophétique qui, en tout cas dans notre réseau et dans différents réseaux au niveau international, dans les réseaux apostoliques, prophétiques et dans des réseaux nationaux et au niveau de la ville de Lyon, hein, on honore Christophe Bernard qui est au milieu de nous, hein, qui est vice-président du CNEF 69. Et on voit que cette prophétie qu'Ésaïe, vous savez, cette prophétie, d'abord le contexte, c'est une prophétie sur Jérusalem. C'est Ésaïe qui prophétise sur Jérusalem et qui dit: lève-toi, Jérusalem, brille. D'autres traductions disent: sois éclairé, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et ce que je vois dans les nations, ce que je vois dans notre nation, ce que je vois aussi dans la ville de Lyon, c'est que il y a cette pensée, cette déclaration prophétique, eh bien Dieu est en train de l'accomplir. Amen. Et donc cette parole prophétique est pour Jérusalem, mais nous savons que, en tant que, vous savez, il y a Sion, il y a toute la réalité de Sion, mais nous sommes aussi, eh bien, sur cette montagne de Sion. Amen. Nous sommes ce peuple qui est uni avec Israël, et Dieu a, eh bien, a son regard, et Dieu désire libérer, eh bien, son esprit. Amen. Et tout à l'heure, à la fin de l'enseignement, je vais faire une déclaration parce que je crois dans la puissance de la parole de Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs. Et un jour, j'ai eu cette pensée. Dieu me disait ceci: ma parole, Alain, dans ta bouche est aussi puissante que ma parole dans ma bouche. Amen. C'est pourquoi c'est des temps, nous sommes dans des temps de déclaration, eh bien, de ce que Dieu est en train de faire. Nous prophétisons, nous proclamons ce que Dieu est en train déjà de faire. Le royaume qui vient, mais le royaume qui est déjà au milieu de nous. Alors lève-toi, brille, car ta lumière vient. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est, alors là, vous êtes, on est tous, je vais pas commenter l'actualité, mais les ténèbres couvrent la terre. Ce matin, en regardant, je voyais un reportage rapide, un article sur l'Europe va traverser une obscurité profonde. Des journalistes qui écrivent ça. Les ténèbres couvrent la terre. Et combien nous voyons qu'il y a deux réalités qui s'affrontent, les ténèbres et la lumière. Et j'aime beaucoup Ésaïe chapitre 21, au verset 11 et 12. 11 et 12, voilà, c'est ça. C'est une révélation de Fabienne Pons sur ce verset par rapport au temps. Moi, ça m'a beaucoup. Et nos bien-aimés Cyril et Marie-Agnès reviennent de Toulouse avec le week-end de Melchisédek. Voilà, menace sur Douma. Alors, ça dépend, les traductions. On me crie de Séhur: sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et la sentinelle répond: le matin vient et la nuit aussi. Amen. Donc il y a deux réalités, la réalité de la nuit qui vient, c'est pour ça qu'à un moment donné on ne pourra plus travailler, le matin vient et la nuit aussi. Et la parole de Dieu nous dit justement de nous tourner vers le Seigneur. Alors la question que j'aimerais qu'on puisse, parce qu'il y a quelque chose qui se lève en nous, on va voir que c'est le Christ en nous, espérance de la gloire, est-ce que nous vivons dans la fin des temps ? Oh. Alors, une précision qui est très importante, c'est dans Matthieu 13, Matthieu 28, vous trouvez l'expression « la fin du monde ». Et en grec, il y a deux mots. Il y a le mot « cosmos », qui veut dire toute la création, et il y a le mot « aion », qui veut dire siècle, époque, période. C'est pour ça, eh bien, il nous est dit, donc c'est pas la fin du monde dans le fait de la destruction du monde, hein. Il nous est dit qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, et plusieurs parlent justement de la purification par le feu. Mais il nous est dit dans Matthieu 13, Matthieu 28, c'est pas le mot cosmos qui est utilisé, c'est le mot aion, c'est-à-dire c'est la fin du siècle présent. Oh, c'est la fin du siècle présent. Amen. Amen. Hier, c'est pas que je me suis réjoui parce que je suis intervenu dans un enterrement. Mes frères et sœurs, lorsque vous avez la conscience de l'éternité, qu'à un moment donné, le siècle présent va s'arrêter, et il nous est parlé de la gloire du siècle à venir. Alléluia. Nous avons goûté le siècle à venir, amen, notamment au travers la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est une question qui revient souvent. Donc, est-ce que nous sommes dans la fin des temps ? Parce que, comme dirait quelqu'un, c'est pas la peine, écoutez bien, de repeindre le navire si le navire va couler. Oh, oh. Et donc, il nous est dit ceci, c'est une question qui revient souvent, particulièrement en des temps comme ceci, lorsque des événements mondiaux semblent se concentrer autour, on verra, d'Israël. Cependant, cette question n'est pas nouvelle. À travers les générations, chaque fois que le monde s'est détérioré moralement, les gens se sont posés la même question. Lorsque les péchés du monde se manifestent par des fléaux, par des guerres, par des tremblements de terre et autres désastres, chaque génération s'est demandé si elle vivait la fin des temps. Et quand on bascule, hein, je sais pas, il y a des histoires de l'an 1000, les gens ils étaient complètement effrayés, ils croyaient que Jésus allait revenir. Il y a pas longtemps, l'an 2000, moi j'ai entendu des prophètes. On a le bug 2000, il n'y a rien qui s'est passé. Mais personne n'a vu la tempête qui est arrivée. Et donc, vous voyez, il y a tout le temps, et même les disciples de Jésus lui ont posé une question similaire. Acte 1, 6, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Alors, il est très important de, en tout cas, moi c'est ma ligne de conduite, je reçois plein de vidéos, je reçois écoute ça, écoute tel prophète, écoute ça, regarde ce qui se passe. Ce qui se passe dans le second ciel ne m'intéresse pas. Je veux traverser, je veux dire Seigneur, moi je veux vivre dans la réalité du trône de Dieu, la réalité de la gloire. Ça ne veut pas dire que je nie ce combat spirituel, je nie cette réalité des ténèbres et de la lumière, mais je vois que ça amène la confusion, il y a perte de temps et ça nous détourne de notre vision. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et il a précisé, Jésus leur a précisé, leur rôle n'était pas de savoir quand ces choses arriveraient, mais plutôt de se concentrer sur une mission, aller répandre l'évangile et faire des disciples. Amen. Et la fin peut être proche, mais notre tâche est d'agir et de vivre pleinement dans la puissance du royaume. Amen. Dans la puissance du royaume. La manifestation, une démonstration de la puissance du royaume. Ayons attention à tous les réseaux sociaux, ayons du discernement, ne pas nous nourrir du monde des ténèbres ou de l'esprit de l'Antichrist ou la révélation de l'Antichrist. Est-ce qu'il y aura un troisième temple ou pas un temple ? Vous voyez, est-ce qu'on est enlevé avant la tribulation, au milieu de la tribulation, après la tribulation ? Sachez une chose, nous voulons nous concentrer sur notre mission. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande ? Et l'évangile du royaume sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Donc, l'Apocalypse veut dire révélation de Jésus-Christ. Et quelque chose d'important, je ne sais plus si je l'ai mis, eh bien, c'est la centralité du trône et de l'agneau. La croix, pardon, et du trône. Parce que Apocalypse chapitre 1, verset 1, Apocalypse, ça veut dire révélation, révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un jour, il y a des gens là, je sais pas, mais je reçois des trucs et il y en a qui disent mais l'Antichrist c'est ça, l'Antichrist c'est ça, l'Antichrist. Moi, il y a 54 ans que je suis converti, j'avais 15 ans, me disait c'est pas la peine de te marier parce que Jésus va revenir. C'est pas la peine de construire une maison parce que Jésus, de faire un crédit parce que Jésus va revenir. Oh, lorsqu'on voyait la compréhension de l'Europe qui se. Vous voyez donc. Attention de ne pas perdre notre temps dans des théories qui, en fin de compte, nous amènent dans la confusion et qui nous détournent de notre mission. Alors, la croix et le trône. Pourquoi j'en parle ? C'est parce que le diable est la croix. Amen. Et il nous est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Amen. Ici, on avait une veillée de prière avec différents pasteurs en janvier. Et il y a un pasteur qui a dit ça, ça m'a confronté. Il dit, vous savez pourquoi on ne voit pas beaucoup la puissance de Dieu ? C'est parce qu'on ne prêche plus la parole de la croix. Amen. La croix, la parole de la croix est cette puissance de Dieu. Amen. Et cette puissance de Dieu. Alors, il y a la croix et il y a le trône. Et il ne faut pas dissocier la croix du trône. C'est pourquoi lorsque nous prenons la Sainte Cène, il y a la réalité de la croix, mais nous avons une culture catholique qui fait que nous voyons toujours Christ crucifié. Et la bonne nouvelle, c'est Christ est crucifié, il est ressuscité, il est glorifié. Amen. Et on n'a qu'un tiers ou deux tiers de la révélation de la plénitude de Christ. Hein. Et la notion de la croix et la notion du trône. Concernant Jérusalem, Ésaïe parle et dit « Jérusalem, lève-toi, brille, sois éclairé, eh bien, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et nous croyons que Jérusalem n'est pas simplement une ville, mais l'épicentre spirituel du plan de Dieu pour le monde. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous voyons tous ces débats, cet antisémitisme qui monte, tout cela, ayons la perspective biblique. Amen. Non pas une perspective politique ou humaine, mais une perspective biblique, vous voyez. Et la Bible nous dit que Jérusalem est l'endroit où Yeshua a été crucifié et il reviendra et il établira son trône à Jérusalem. Vous savez que les Mormons, ils croient que le pays promis, c'est les États-Unis. Oh, il y a des tas de philosophies comme ça. Amen. On était avec une réunion de pasteurs et j'ai appris, je ne savais pas, il y a quelqu'un qui revenait d'Afrique, du Congo, et là-bas, il y a l'onction, pas d'huile, il y a l'onction de la bière. Je dis, mais on va où, là ? Amen. Je sais que j'ai fait tous les Nikasi de la région lyonnaise avec Christophe et avec les jeunes, là, après les réunions. Hein, c'est un monde que je ne connaissais pas. Mais frères et sœurs, on est dans des... Et les gens, ils suivent ces choses-là, voyez. Ne soyez pas séduits. Dans la parole de Dieu, il nous est dit, ne soyez pas séduits trois fois dans Matthieu 24. Israël est l'horloge de Dieu dans ce monde. On y discerne l'heure des temps de notre humanité. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est la fin des temps ? Ça fait 2000 ans hein, que les disciples disent, mais est-ce que c'est la fin des temps ? D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit dans les Thessaloniciens, je ne veux pas que puissiez être ébranlés par rapport à ceux qui partent, qui vont vers le Seigneur. Vous voyez, il explique la réalité. Mes frères et sœurs, lorsque nous voyons effectivement la réalité d'Israël, qui sera dans Zacharie 12, eh bien, une coupe d'étourdissement, pour toutes les nations. On voit exactement ce qui se passe actuellement. Amen. Donc il est très important de comprendre la réalité de la croix. Jésus a été crucifié à Jérusalem sur le mont Golgotha, en dehors de la ville, hein, comme dit les Écritures, mais il reviendra. Zacharie chapitre 14, verset 4, « En ce jour-là, ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem à l'est, et le mont des Oliviers se fendra par le milieu d'est en ouest, formant une très grande vallée. La moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. » Donc il y a une réalité comme quoi c'est l'endroit où l'autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée à Jérusalem. La croix est le lieu où la puissance de la rédemption a été libérée et c'est là que nous trouvons notre identité en tant que disciples. Mais c'est Jérusalem est le centre physique et spirituel du monde et revêt une signification unique dans le plan de Dieu. Amen. Ce qui a totalement relancé, en tout cas mon ministère, rafraîchi mon ministère, c'est deux choses. C'est la révélation de l'amour du Père, ça m'a libéré. L'amour, la crainte n'est pas dans l'amour, l'amour parfait bannit la crainte. Oh, oh. Et le deuxième, c'est que nous sommes branchés, nous sommes greffés sur l'olivier franc. Et la sève, la révélation des Écritures vient, les principes de Dieu viennent et nous libèrent, frères et sœurs. Amen. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il y a non seulement la croix, mais il y a la réalité du trône. Amen. Non seulement la réalité du salut, et Pierre-Antoine en parlera concernant l'évangile du salut, mais il y a la réalité de l'évangile du royaume. Amen. Le trône, la croix et le trône. Et dans l'évangile du royaume, eh bien, il y a cette réalité du salut. Le salut, c'est la porte d'entrée. Eh bien, il faut que tu naisses de nouveau pour que tu puisses voir et entrer dans le royaume de Dieu. Besoin de révélation et besoin d'obéissance, voyez. Donc il y a cette réalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que l'Église doit se lever, nous devons nous lever pour exercer notre autorité spirituelle. Amen, amen, frères et sœurs. Notre exercice, le trône, la croix et le trône. Amen. Et on bénit le Seigneur. Et vous savez, concernant notre position théologique sur la fin des temps, que vous croyez un enlèvement avant la tribulation, après la tribulation ou pas du tout, ces choses sont hors de notre contrôle et de notre compréhension. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre comportement et notre cœur. Amen. Et c'est pour ça, veille sur ton cœur, veille sur ton cœur, garde ton cœur au-dessus de tout. Amen. Nous ne savons pas exactement quand cela se produira, ni tous les détails, mais ce qui importe, c'est comment nous vivons aujourd'hui. Notre cœur est-il à la bonne place? Sommes-nous concentrés sur le royaume? Sommes-nous prêts à agir avec courage? Lève-toi. Et Dieu est en train de lever une génération radicale. Amen. Amen. Vous savez que radical, en latin, ça vient du mot racine. C'est-à-dire, plus je suis ancré dans le Christ, dans l'amour du Christ, plus je suis en communion avec le Père, avec l'Esprit, alors la sève de Dieu, la révélation de Dieu vient, et ainsi, eh bien, nous sommes de plus en plus, nous sommes de plus en plus dans l'audace de la foi. Amen. Et il y a quelque chose qui se lève en nous, une audace au niveau du témoignage, une audace au niveau de la prière. Alors, lève-toi, le Romains chapitre 13, verset 11, il nous est parlé justement de cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons cru. C'est-à-dire, nous sommes conscients qu'il y a une guerre de royaumes, qu'il y a une guerre entre les ténèbres et aussi la lumière, et que le Seigneur, l'Esprit nous appelle, voyez, à une prise de conscience en disant, Seigneur, je ne veux pas m'endormir. Je sais pas, plusieurs fois dans des périodes, j'avais l'impression de m'endormir du sommeil de la mort. Ça vous arrive, ça? J'ai plus envie de rien faire. Et on attend. Et dans des périodes où je suis dans des, avec mon épouse, où on avait passé par des épreuves, j'avais même plus envie de me lever pour commencer une journée. Il y a une oppression qui est là. Il y a des ténèbres qui sont là. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, se lève. Amen. Et celui qui se lève, c'est celui qui se réveille parce qu'il sait que c'est l'heure. Et nous sommes, frères et sœurs, et on en parlera, on en a déjà parlé entre nous, eh bien, c'est que nous sommes dans un temps de basculement. Tout est en train de s'effondrer. Amen. Et il y a une réalité que Dieu veut, vous voyez, comme du temps, j'en parlais avec Pierre, du temps de Joseph, à un moment donné, eh bien, Joseph qui est passé eh bien, d'une prison à la cour de Pharaon a été un instrument de bénédiction pour le pays d'Égypte. Amen. Et combien la famine est là. Les amis, nous ne sommes pas dans les 7 années de gras, hein, les 7 années de vache grasse. Quand je vais visiter des personnes âgées, ah, il y avait les 30 glorieuses. Ce n'est pas les 30 glorieuses maintenant. Hein. C'est plutôt les 7 années eh bien, de vache maigre. Et Dieu est en train de lever, on a pu témoigner au travers de cette dynamique, au travers de la création d'une association, d'une coopérative, tout cela. Nous nous levons parce que nous voulons eh bien, être source de solutions pour le monde. Amen. Et ça va être une source de témoignage comme quoi eh bien, Dieu est bon. Les gens doivent réaliser qu'au travers de la provision, eh bien, la réalité que Dieu est bon, qu'il est Jéhovah, Jiré, l'Éternel, qui eh bien, pourvoit. Amen. Donc, nous sommes dans une crise sociale. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des tas. Moi, je pleure quand je vois des agriculteurs. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a Michel Barnier qui a été ému lorsqu'il y a une elle explique son travail. Elle dit, monsieur, si vous ne faites pas quelque chose, je vais me suicider. Oh, ce n'est pas un cinéma, c'est une réalité. Et combien, frères et sœurs, je crois que Dieu est en train de lever, amen, de lever quelque chose en nous, de lever quelque chose entre nous pour que nous puissions être une solution eh bien, pour le monde comme a été Joseph au travers des greniers de Joseph. Le fait d'entendre et d'obéir nous met en mouvement et met en mouvement l'esprit qui est en nous et nous devenons lumière. Amen. Et ce qui est super, c'est que nous sortons du sommeil alors qu'il fait encore nuit. Et dans la pensée hébraïque, le jour commence le soir. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Et ce texte que j'aime beaucoup, c'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 18. Nous avons entendu cette voix venant du ciel. C'est Pierre qui relate la transfiguration. Voyez, nous avons entendu cette voix qui vient du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, amen, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Vous dites Alain, t'es bien marrant, mais tu dis lève-toi, je suis fatigué. Lève-toi, je suis découragé. Lève-toi, je suis malade. Et frères et sœurs, alors que nous rentrons, nous sommes dans une transition, dans un temps de réforme dans cette église, eh bien, c'est le Christ en nous qui se lève. Amen. Laissons plus de place au Christ. Et au travers de la liberté que nous avons de l'esprit, au travers des partages dans l'amour et dans la vérité, en marchant dans la vérité, dans l'amour, dans la grâce, alors le Christ se lève, amen, le Saint-Esprit réjouit et le Saint-Esprit va être libéré, amen. Il y a quelque chose, c'est le Christ en nous. Seigneur, que le Christ en nous, que le Christ en moi se lève. Amen, amen. Oh, oh. Amen, amen. Seigneur, merci pour le Christ en moi, espérance de la gloire. Vous voyez, je suis faible. Cet été, en juillet, j'étais un peu découragé et Dieu m'a dit, ben voilà, je vais t'expliquer la notion de la faiblesse, la notion de la force. Il y a un verset incroyable. Alors, je ne sais plus, les références, c'est dans Corinthiens. Et il nous est dit ceci, que Jésus n'a pas été crucifié en raison de sa force, il a été crucifié en raison de sa faiblesse. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et là, afin qu'il y ait une plus grande dépendance avec Dieu. Vous voyez, notre faiblesse est un terreau pour voir la grâce de Dieu, pour voir la gloire de Dieu. Amen. Dire, Seigneur, tu vois, là je suis perdu, là je suis dans la confusion, là je ne sais plus quoi en faire. Amen. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est la pédagogie de Dieu, mais Dieu attend toujours le dernier moment pour intervenir. Amen. C'est Philippe Jauré lorsqu'il disait, vous savez, ce verset qui nous dit, eh bien, nous sommes, Dieu ne permettra pas que vous soyez, voyez, tentés au-delà de vos forces. Il dit, Seigneur, mais moi, je ne savais pas qu'il fallait, voyez, étirer, éprouver, épurer, voyez. Et à un moment donné, la force de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Pourquoi? Parce que, eh bien, alors que nous sommes, voyez, attentif à la parole prophétique, eh bien, nous prêtons attention à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. Amen, dans notre cœur. Et donc, lève-toi. Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous entendons? C'est pour ça, attention de pas, on a parlé tout à l'heure avec Cyril, attention de pas mettre les actualités en boucle parce que vous allez être complètement déprimé. Voyez, mettez la parole de Dieu, mettez de la louange dans vos maisons, tout cela. Donc, qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que tu entends? Amen. Parce que quand tu as une prise de conscience, Seigneur, je ne veux pas m'endormir du sommeil de la mort. Oh, je rêve. Et il y a des frères et sœurs, je les secoue. Excusez-moi d'être un peu brutal, mais je les secoue parce que je ne veux pas que mon frère, ma sœur se perdent. Amen. Je ne veux pas que des familles se perdent. Je ne veux pas que des jeunes. Vous savez qu'il faut beaucoup prier pour la jeunesse, pour les enfants. Parce que si le diable lave le cerveau, eh bien, des jeunes, une génération, une seule génération, ils volent cette génération, il n'y aura plus de transmission. Au sommet de Davos, j'ai écouté des vidéos, il y a quelqu'un qui est venu. Alors, je ne me souviens plus le bouquin qu'elle a écrit. Il a dit, gouvernant, vous voulez avoir le pouvoir sur les peuples? C'est très simple. Abonder la jeunesse de drogue, de jeux vidéo. Il y a une chose, une autre chose, vous voyez. Donc, là, on voit qu'il y a une puissance, mes frères et sœurs, il y a un peuple qui se lève dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Moi, je me réjouis parce que hier, Magda, Josette et d'autres, il y a eu, vous voyez, les femmes se sont levées. Lorsque je suis rentré avec Thierry, on est rentré, il était midi et demi, je dis, oh les sœurs, il y a vos maris qui vous attendent. Alors, oui, Nathalie, il faut que le mari apprenne à manger. Ah, vous voyez, mais je dis, mais vous voyez, lorsque nous sommes dans le feu de l'action, on ne veut plus quitter la maison de Dieu. Il y a quelque chose. Et je les voyais prier les unes pour les autres et la gloire de Dieu vient, vous voyez. Parce que c'est je me lève, mais je me lève aussi. Il y a les jeunes qui se lèvent. On est en train de préparer une action Noël dans le foyer de Fanny. Et parmi les enfants qui sont, voilà, qui n'ont plus, qui ont besoin d'assistance au niveau foyer et aussi en relation avec Fleur d'automne, avec l'EHPAD, eh bien, de Fleur d'automne. Voyez, il y a alors les hommes, ils disent, ben, on a prévu un bistrot des hommes au mois de janvier. Hein, ne soyez pas jaloux, mais Dieu a une autre manière de nous saisir. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous sommes dans des temps. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est Actes chapitre 2, versets 44 à 47. Donc je me lève, je ne veux prise de conscience que les ténèbres couvrent la terre. Je dis, Seigneur, voilà, dans ma faiblesse, je viens à toi, je me consacre à toi, je m'engage pour toi, que la force du Christ, que Christ en moi, eh bien, soit libéré. Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la deuxième pensée que j'aimerais partager, c'est la notion de la communauté. Amen. Et regardez-moi, ça me fait rêver ça. Acte 2, verset 44. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Amen. Alléluia. Je m'arrête là parce qu'après c'est un peu plus compliqué. Non. La communauté. Et vous savez, pour vous encourager, ça fait 35-40 ans que je porte Ézéchiel 37, vous voyez, et je suis là, moi je suis étonné de ce que Dieu, émerveillé de ce que Dieu est en train de faire. Moi je vous le dis, hein, amen, je suis étonné, et le Seigneur me dit ceci, Jérémie a parlé du grain de blé. Du grain de blé qui tombe en terre. Alain, avec d'autres, et je remercie toutes les, vous voyez, les frères et sœurs qui ont intercédé, qui ont prié. Et frères et sœurs, maintenant, c'est le moment de la croissance. Vous voyez, le blé sort et nous ne savons pas quelle forme. Alain Lopez, qui est tellement stratégique, je dis, Seigneur, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Dieu dit, enlève tes mains de mon œuvre. Laisse-moi former, donner la forme que je veux à ce grain. Hein, vous lisez ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, concernant la résurrection. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Alors, ce n'est pas notre culture, notre style de vie. Hein. Maintenant, on a peut-être des groupes WhatsApp, je ne sais pas. Hein. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire qu'il y a une puissance d'attraction lorsque la croix est au centre d'une communauté, amen, d'une église, d'une assemblée. Et là, nous voyons, et on en parlait aussi avec François, c'est-à-dire qu'il persévérait dans quatre choses, l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La fraction du pain, ce n'était pas de temps en temps prendre le repas du Seigneur, c'était un partage des biens. Amen. Et combien, frères et sœurs, la question de la pauvreté, la question sociale va être au cœur, eh bien, de cette génération. Et s'il y a une démonstration du royaume de Dieu au milieu de nous, amen, amen. Moi, j'ai une femme incroyable, vous voyez. Lorsqu'il arrive le Covid, tout ça, je dis, chérie, il faut qu'on fasse des provisions. Ma femme m'a dit, ok, si ces provisions, on les partage avec nos voisins. Moi, je connais des gens, il y a 20 ans, qui ont reçu des prophètes en disant, voilà, vous savez, les survivalistes, tout ça. Attention, attention, faites des provisions. Ça fait 20 ans, ils n'ont pas fini de manger des boîtes de petits pois. Ils ont rempli, non mais, moi, je connais quelqu'un qui a 3 tonnes d'aliments, des chrétiens, parce qu'ils ont peur. Vous voyez, on n'est pas là pour se retirer du monde. Vous voyez, dans Jean 17, soit vous vous séparez du monde, soit vous êtes contaminé par le monde, ou soit vous influencez le monde. Et c'est cette, vous voyez, et Dieu va libérer cela, frères et sœurs, concernant le partage. Et vous savez quoi ? On va vivre le miracle de la multiplication des pains. Le 15 décembre, amenez vos familles, tout cela, et on va vivre la réalité de cette vie communautaire. Et donc, leur vie communautaire, leur investissement les uns vers les autres, leur entraide mutuelle et leur dévouement au royaume étaient au cœur de leur mission. Leur unité, leur solidarité et leur solidarité, ils ont proclamé l'évangile non seulement par leurs paroles, mais aussi par leur manière de vivre. Ah, j'ai noté cette phrase, ça m'a plu. Vivre l'Église, non pas comme un événement auquel on participe, mais comme un corps auquel on appartient avec sa vie entière. Amen. Et je vis l'Église dans un engagement envers les autres, les uns avec les autres. Et Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et nous voyons que cette libéralité, ce partage, frères et sœurs, eh bien, va que le peuple autour, eh bien, on aura faveur et le Seigneur va attirer à lui des personnes nouvelles. Amen, des personnes nouvelles. Alors, lorsque j'ai pu entendre Luc Maroni aussi avec toute cette formation concernant un impact social, soyez rassurés, j'ai pas compris la moitié des vous voyez, j'étais tellement fatigué, je dis mais Seigneur, c'est incroyable tout ça. J'étais épuisé, et j'avais le mot réforme, 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 réforme. On prie pour un réveil. Et c'est Tozer qui dit ceci. Eh bien, ceux qui ne veulent pas être réformés n'ont pas besoin d'être réveillés. Donc, prions pour une réforme dans nos mentalités, dans nos familles, dans l'éducation des enfants, tout cela. Et bien sûr, il y a cette action de réveil. Mes frères et sœurs, nous voulons réellement avoir un impact autour de nous. Hein. Et on en parlera, c'est le résultat d'un évangile rétréci, diminué ou divisé, l'évangile du salut et l'évangile du royaume. On aime beaucoup Jésus Sauveur, mais on apprécie peu Jésus Seigneur de nos vies, de nos familles, de nos enfants, de nos finances, toutes ces choses-là. Amen. Et John Wesley disait, la vision de l'Église, c'est la paroisse, c'est l'œuvre. Amen. Et Dieu veut réconcilier toutes choses. Amen. Dieu veut réconcilier. Et là, nous sommes avec d'autres, et Dieu est en train de tisser un filet. Nous sommes là pour manifester la réalité d'une communauté, mais aussi de l'Église de la ville. Amen. Et au travers des différentes sources et ressources, eh bien, Dieu va manifester sa bonté, voyez. Et pour être, non pas pour changer le monde, parce que le monde est corrompu, mais pour influencer le monde, parce que Dieu nous appelle à être sel et lumière du monde. Amen. Et on parlait de différentes choses. Nous ne sommes pas là pour dominer le monde, mais nous sommes là pour aimer et servir dans l'amour. Amen. Et notre royaume n'est pas de ce monde, c'est la source, c'est Dieu, son trône, et c'est la culture du royaume et une vision biblique du monde. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Ouh là là. J'étais en train de discuter avec... je tairai le nom parce que c'est enregistré, et ce frère me dit, Alain, est-ce que tu veux voir le responsable de toute la sécurité de la métropole lyonnaise ? Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire à un gars comme ça ? Il dit, mais c'est un catholique, il se sent seul. Et il dit, il a besoin d'appui pour que les chrétiens, écoutez bien ceci, pour que les chrétiens aillent sur les points de deal. C'est ce que le frère à Saint-Étienne a fait. Il vient avec des chrétiens autour au pied des immeubles, avec la table de Sainte-Seine. Il chante des cantiques, il prie, il parle de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et vous savez quoi ? Quelque temps après, il y a des dealers qui se convertissent et les points de deal partent. C'est ça l'évangile du royaume ! C'est d'être une solution dans le monde. Alors je laisse voir, vous voyez, maintenant, avant je défonçais les portes, maintenant je dis Seigneur, tu veux que j'y aille, ouvre les portes, vous voyez. Et donc il y a des opportunités que Dieu va nous donner d'une manière tout à fait pratique, hein, tout à fait pratique. Alors on va simplement terminer, j'aurai beaucoup de choses à dire, mais frères et sœurs, Dieu, nous sommes dans un temps de basculement en tant qu'Église. Écoutez ceci aussi, parce que ça brûle sur mon cœur. Tous les premiers jeudis de chaque mois, on est à peu près une douzaine, une quinzaine de pasteurs. Moi, je rigole parce que je suis étonné de voir la réconciliation des pasteurs, les prières, tout ça. Et alors qu'on priait, il y a un frère qui était assis là. Il me dit, Alain, mais c'est super ce que tu fais, tu te débats, on voit que tu te débats pour la ville, tout ça. Mais est-ce que dans ton église, il y a une croissance numérique ? Et alors, je t'ai scié. En plus, c'est un pasteur qui dit ça devant les autres pasteurs, vous voyez ? Donc, y avait un frère qui a trois cultes, il a 350 jeunes. Il y a un autre qui a trois cultes, vous voyez ? L'église baptiste qui a deux cultes. Je dis, Seigneur, mais... J'étais coincé. Et à un moment donné, parce que quand vous êtes coincé, il faut s'adresser là-haut. Vite, Seigneur, envoie-moi un SMS là, parce que je dois répondre. Et donc, en priant, vous savez ce que Dieu m'a dit ? Il me dit, je dis à ce frère, Dieu a, en tout cas, c'est ma conviction, Dieu a, il y a un mandat de cette église de garder les cieux ouverts. Quelle que soit la croissance, à droite, à gauche, Eh bien, sachez une chose, on a la vision d'une maison de prière. On a la vision de l'actualité. Vous savez qu'il y a des églises qui ne se posent aucune question. Quelle est l'actualité de l'Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à l'Église? C'est ça une Église qui est en alignement avec les temps de Dieu. Amen. Et une Église apostolique qui a comme vision, eh bien, la mission d'atteindre, eh bien, ceux et celles. Et j'ai retrouvé dans mes petites notes, hein, je suis quelqu'un d'archiviste, vous voyez, j'ai l'onction de scribe. Une église qui s'élève jusque dans les lieux célestes pour déloger, et on va déloger, écoutez bien, on va mettre la musique là, s'il te plaît, pour déloger les puissances de l'enfer au-dessus d'une région. Et ce n'est pas à cause de nous, frères et sœurs, mais il y a un mandat, comme il y avait différentes tribus, et personnellement, je suis de la tribu d'Issacar, et le symbole d'Issacar, vous allez rire, c'est l'âne. Allez, vas-y frère, tu fais ça, et tu fais ça, et je porte, et je porte, et je porte. Sachez que je cherche des personnes à transmettre, pour transmettre, hein, parce que je porte, je porte, je porte. Il y a un discernement des temps pour savoir comment il fallait aller à la guerre. Et je vous invite maintenant à rentrer dans un temps où on va déclarer cela, restez assis. Et il nous est dit, une église qui s'élève jusque dans les lieux célestes pour déloger les puissances de l'enfer au-dessus d'une région. Et je crois que plus, c'est pour ça qu'il y a un mandat au niveau de la réconciliation, de l'unité, parce que plus nous sommes réconciliés les uns avec les autres, et bien plus nous avons une autorité spirituelle. Préparez-vous un temps, maintenant nous allons décréter Ésaïe chapitre 60. Une église qui devient l'homme plus fort que l'homme fort de la région. Amen. Amen. Je pourrais vous parler du combat spirituel, tout ça, toutes les erreurs que j'ai faites. Une église qui exerce un contrôle et une influence dans sa région et maintient une porte ouverte aux armées d'anges. Lorsque j'étais au milieu des pasteurs, je vous dis ça, c'est pas pour me glorifier. Des pasteurs non charismatiques, ils me disent, mais Alain, toi, tu es un prophète dans la ville. Parce que tu nous parles de la réalité des lieux célestes. Tu nous parles que le ciel doit venir sur la terre. Tu nous parles qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Il y a des gens, des pasteurs qui me disent, ouais, j'ai quelque chose contre tel frère. Je dis, tu vois, frère, lui, il a quelque chose contre toi. Parlez-vous. Tu prêches le pardon dans ton église, tu n'es pas foutu de pardonner à ton frère. Une église qui exerce un contrôle, voyez, une église qui prend la responsabilité de garder les cieux ouverts, maintenir un climat spirituel. Ah, le cinquième point, ça m'a béni. Une église qui n'est pas jugée à sa taille. Nous avons un mandat d'être le levain du royaume, Matthieu 13, pour cette ville, un petit levain qui fait introduire la vision de l'évangile du royaume. Voyez, une église qui annonce le message de l'évangile du royaume. Et septième point, amen, et on encourage une église qui réforme la nature de la société. Oh, alléluia. On va déclarer, je vous invite à vous lever maintenant. Et je vais déclarer Ésaïe chapitre 60. Merci Seigneur pour ta grâce dans le nom de Jésus. Priez en disant Seigneur, je veux me lever dans une prise de conscience. Priez frères et sœurs, alléluia. Au nom de Jésus, réveillons-nous. Au nom de Jésus.
Monsieur le Seigneur, il nous donne des territoires. L'église locale a un territoire. Quand nous prions pour la ville, il faut prier d'abord pour l'église de la ville. Nous avons parmi nous, et c'est ça qu'on a besoin de prendre conscience, de toutes les richesses qui sont dans l'église. Vraiment, moi je crie à Dieu pour que cette conscience vienne, descende partout dans cette église, de prendre conscience de toutes les richesses qui sont dans l'église. Des hommes et des femmes travaillent depuis des années dans l'intercession, dans la prière, dans la main d'association, à différents titres, de façon à pouvoir exprimer le cœur de Père. Ne négligeons pas ces petits commencements. Considérons que ce sont ceux qui ont préparé le chemin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons un pasteur qui est complètement impliqué, j'irai avec un mandat dans la société, dans l'Église. Donc, il est, prions, accompagnons ce travail, parce que Alain est discret. Mais je veux dire qu'il est porteur de quelque chose qui est la création, la formation d'une église de la ville. Et c'est cette église de la ville qui doit protéger la ville. C'est cette église de la ville qui doit amener finalement la réalité du royaume. Le combat spirituel passe par l'église de la ville. Donc prions pour que Alain puisse arriver, qu'à travers lui, l'esprit convainque les pasteurs des différentes églises de pouvoir s'unir ensemble. Et c'est déjà commencé. Je ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas, mais prendre une conscience supplémentaire, un positionnement nouveau par rapport à la ville. Il s'agit, le combat, il est là. Les villes, quand je vois ce qui s'est passé à Toulouse, j'ai crié, j'ai interpellé des responsables. Ils m'ont dit, mais tu parles de l'église de la ville, elle n'existe pas. Eh bien justement, il faut se réveiller à cela. Il faut se réveiller. Il y a différents niveaux de responsabilité, différents niveaux de territoire. L'église, le territoire de la ville de Lyon et de son environnement appartient à l'église de la ville, dans la royauté, la sacrificature. Seigneur, nous prions, Seigneur, devant toi. Nous nous humilions devant toi. Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir été tellement ignorant de toutes ces choses, Seigneur. Seigneur, nous crions à toi que nos cœurs soient réformés. Que nos pensées soient réformées, que notre vision soit réformée, que nous puissions voir là où tu veux travailler, là où tu travailles, Seigneur. Que nous puissions voir, entendre aussi ce que tu dis à l'Église. Que nous puissions rentrer dans les œuvres, Seigneur, que tu es. Seigneur Jésus-Christ, les œuvres du Père, les œuvres préparées d'avance pour nos vies, Seigneur. Pour cette Église et les Églises qui sont jointes à Alain. Je prie, Seigneur, sur Alain. Je prie pour tous ceux qui sont joints à Alain. Seigneur, afin qu'ils puissent arriver à comprendre, Seigneur, la réalité, Seigneur, tout est accompli pour cette ville. Et cette réalité, Seigneur, de l'unité, afin de pouvoir poser, de pouvoir, Seigneur, protéger, de pouvoir, Seigneur, se guerroyer, de pouvoir, Seigneur, chasser les esprits qui tiennent cette ville. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu descends dans les familles afin de restaurer les familles. Tu descends, Seigneur, avec l'autorité, Seigneur, que tu donnes aux pères, aux mères, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, lever les familles devant ton trône, afin que ta bénédiction descende. Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, des familles qui se lèvent et qui disent, moi et l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Eh bien, Seigneur, c'est ce que tu as dit à travers, Seigneur, Josué. Eh bien, Seigneur, mon Dieu, nous voulons prendre cette réalité. Nous voulons nous lever, Seigneur, pour la cause de Jésus, pour la cause du roi des rois, pour la cause du Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu engages aujourd'hui, chacune de nos vies, Seigneur, à regarder les territoires qui nous sont confiés, là où je suis, là où je travaille, là où, Seigneur, tu m'envoies. Seigneur, que tous ces territoires puissent voir, Seigneur, Christ en moi, l'excellence de la gloire, Seigneur, l'éclairage de Christ en moi, oui, l'excellence de la gloire de Dieu, du Père. Seigneur, merci pour cette réalité. Nous bénissons, je veux bénir chacune famille qui est là, qui est, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous pouvons dire, comme il était dit à Néhémie, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons, Seigneur, les murailles de protection de la ville, Seigneur, de la ville que tu nous confies, mais la grande ville aussi, et bien que les communautés se lèvent et bâtissent, Seigneur, les murailles de la grande ville, Seigneur, afin que la gloire descende et que l'ennemi soit chassé au nom de Jésus, pour la gloire du Père et pour la restauration du royaume, Seigneur, sur cette ville, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu pourvois, parce que tu annonces et parce que ta parole est vérité et parce que maintenant, Seigneur, l'heure est venue afin de voir, Seigneur, tes enfants se lever, afin que les fils et les filles, Seigneur, du royaume se lèvent, afin que la création tout entière qui soupire après la réalité des fils de Dieu puisse dire « Les voici au nom de Jésus-Christ ». Seigneur, nous bénissons ce temps, Seigneur, dans lequel nous sommes. Nous ne voulons pas regarder, Seigneur, aux souffrances. Nous ne voulons pas regarder au chemin.
Nous voulons regarder ce que tu fais, ce que tu vois, ce que tu dis, afin que ta gloire puisse venir, Seigneur. Et dans la préparation des temps qui sont là, Seigneur, c'est toi qui construis ta maison, notre maison personnelle, notre maison familiale et notre maison d'église, Seigneur, afin que la ville, Seigneur, les communautés soient touchées par la vérité, par ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur, et que ta gloire vienne, Seigneur, et que la nourriture descende du ciel pour bénir les maisons, Seigneur, et que toute personne qui voit ta bonté puisse venir à la repentance. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.
Voilà, je vous invite à adorer le Seigneur pendant un temps, avant que je puisse déclarer en disant, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, c'est une façon de se lever en disant, Seigneur, moi je me lève. Quelles que soient les circonstances, je me lève. Et alors que je me lève, le miracle de Dieu vient. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux proclamer que les ténèbres couvrent la terre, c'est une constatation. Oui, cette réalité, c'est une réalité, mais il y a une autre réalité, c'est la réalité de la lumière qui vient. Et je déclare que la lumière vient. Au nom de Jésus, je libère un esprit de révélation, un esprit de sagesse maintenant, et je chasse dans le nom de Jésus toute ténèbre qui vient dans nos maisons, qui vient dans nos pensées, qui vient nous amener au travers de la séduction, au travers de l'incrédulité, au travers, Seigneur, de toutes sortes de confusions. Je proclame que la lumière vient. Il y a une réalité de la nuit, mais il y a une génération qui se lève dans la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi, sois éclairé. Seigneur, nous voulons et nous éveiller et nous réveiller. Nous détruisons toute œuvre de somnolence, d'incrédulité, de fatalisme au milieu de nous. Nous nous levons dans l'obéissance et dans la foi. Viens illuminer les yeux de nos cœurs. Nous appelons l'esprit de sagesse, de révélation. Que le rêve de Dieu se réalise au travers de ta sagesse. Et dans l'esprit, je vois des voiles noires. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité maintenant sur ces voiles de deuil, de tristesse, de fatalisme. Nous déchirons dans le nom de Jésus ces voiles qui sont sur des familles, qui sont éprouvées, des voiles de maladie, d'infirmité. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir des guérisons au milieu de nous. Nous voulons voir des familles qui rentrent dans la prospérité de Dieu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, tu te révèles à elles dans le nom de Jésus. Il y a une autre chose dans verset 4, ça c'est extraordinaire. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Avant le retour du Seigneur, Malachie chapitre 3, Luc chapitre 1, il nous est dit que Dieu veut ramener le cœur des pères vers le cœur des fils et nous appelons la restauration des familles. Lorsqu'hier j'ai vu des familles, au nom de Jésus, j'appelle toutes ces familles qui t'ont connu à revenir, au nom de Jésus. Restauration des familles. Seigneur, que là où il y a de la rébellion, que tu amènes la sagesse d'en haut, que tu prépares ton peuple dans le nom de Jésus. Nous prions pour une attraction maintenant dans le... Priez, frères et sœurs, pour vos familles. Alléluia, nous ne permettons pas que nos enfants aillent en Égypte, soient sous l'esclavage et nous brisons maintenant toute action de l'ennemi parmi nos enfants et nos jeunes dans le nom de Jésus, toute tentative de l'ennemi. Verset 5, il nous est parlé des ressources. Alléluia, à cette vue tu seras radieuse, ton cœur bondira quand les richesses seront détournées de la mer, quand les ressources des nations viendront vers toi. Alléluia. Non seulement il faut avoir la vision, frères et sœurs, mais il faut avoir la provision de Dieu. Nous appelons. Souvent on nous dit, mais Seigneur, il me manque. Tu as quelque chose. Et comme ce petit garçon, apporte ses 5 pains et ses 2 poissons et tu verras la multiplication. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions pour des ressources, nous prions pour des bonnes connexions, pour des relations, nous prions pour les finances, nous prions pour toutes sortes, Seigneur. Et Seigneur, pour qu'une vision s'accomplisse, il faut une vision, il faut une provision humaine, matérielle, spirituelle. Alléluia. Seigneur, merci financière. Seigneur, nous bénissons pour tous ces projets. Au milieu de nous, Seigneur, nous appelons la ressource. Nous appelons les ressources. Priez, priez, frères et sœurs. Alors que nous voulons visiter les enfants qui, où ils sont dans des familles où ils ont été abusés, où il y a des violences conjugales. Nous voulons manifester ton royaume dans ce foyer de famille, aussi dans ces fleurs d'automne à l'EHPAD de Décines, dans le nom de Jésus. Alléluia, verset 7. Et je ferai resplendir ma maison de ma splendeur. Seigneur, que la lumière luise au milieu de nous dans le nom de Jésus. Priez, frères et sœurs, soyez avec moi maintenant dans ce temps de ministère. Nous prions, Seigneur, que nos maisons soient des maisons de lumière, des maisons de réconciliation où le shalom de Dieu, la paix de Dieu est là. Je ferai resplendir ma maison. C'est toi qui bâtis ta maison et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, au nom de Jésus. Et nous t'adorons, nous te bénissons. Et le verset 13, je glorifierai le lieu où reposent mes pieds. Et je termine verset 14, ils t'appelleront, écoutez bien ceci, ville de l'Éternel. Amen. Un jour, j'ai fait un lapsus, mais je crois que c'est le Saint-Esprit. Je voulais parler de la ville de Sion. Et le Saint-Esprit, j'ai dit quelque chose, j'ai parlé de la ville de Lyon. Alors Seigneur, vous savez que Lyon est en relation avec Beersheba. Alléluia, où il y a des sources, où il y a des temps, où là, oui c'est ça. Merci Seigneur, nous prions pour, comme Genèse 26, un lieu Rehoboth. Nous parlons de Rehoboth, un lieu d'élargissement où nous allons prospérer. Et je déclare cela pour nos familles, pour l'Église, dans le nom de Jésus. Alors que nous avons creusé le puits de Sitna, le puits d'Essec, querelle, dispute, tu nous amènes, Seigneur, vers le puits de Rehoboth. Alors merci pour ta grâce et pour ta bénédiction sur toutes les familles dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, terminons dans la louange, l'adoration maintenant dans le nom de Jésus. On va terminer, on va projeter simplement les différentes annonces. Et sachez, le samedi 7 décembre, il y a un témoignage de Anna concernant la puissance du pardon. Seigneur, merci que ta grâce, que ton amour nous raccompagne et que, Seigneur, nous puissions vivre la réalité de ton royaume et démontrer d'une manière communautaire la réalité de ton royaume dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. Ils t'appelleront ville de l'Éternel. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et on reprend le mardi matin, il y a un temps d'intercession. Le mercredi entre midi et deux, il y a le temps d'intercession et d'autres rencontres. Hein. Vous avez, la semaine prochaine, vous aurez la lettre de nouvelles du mois de décembre. Hein. Voilà, bon retour à tous. Vous pouvez rester aussi, vous bénir. Et ainsi manifester la réalité du corps de Christ.